Bac FM, nous sommes de retour avec la compagnie des Ballons Rouges. Donc on avait déjà parlé d'eux avec Camille Delpech, donc Camille qui est à nouveau avec moi. Bonjour Camille.
Bonjour Marie.
Donc je le rappelle à nouveau, tu es la directrice artistique de la compagnie.
Tout à fait.
Et donc je suis là aujourd'hui pour passer un moment avec toute votre compagnie. Là vous êtes en état de répétition, c'est bien ça ?
Absolument. En fait là c'est la dernière ligne droite avant la création puisqu'on joue donc samedi 10 décembre, ce samedi, au Théâtre des Forges Royales de Guérigny. Et donc là on est ce qu'on appelle en résidence, c'est-à-dire qu'on est dans un lieu qui nous accueille pendant un temps donné. Donc là on est à la Maison de la Culture et on est en résidence jusqu'à demain. Voilà, donc c'est un moment qui nous permet, comme on est à la fin du travail, d'assembler enfin tous les éléments du spectacle. Le travail donc, de mise en scène qui a été fait avec les comédiens pendant longtemps va enfin rencontrer, on va dire, le décor en entier, les costumes, tous les accessoires, etc. etc.
Voilà. Oui, donc tu me disais que vous aviez commencé le travail de répétition en mi-septembre.
C'est ça.
Et donc là, vous êtes à la fin du travail. Donc, comment se déroule un peu une répétition ? Tu peux m'en parler un petit peu ?
Alors, il y a plusieurs types de répétitions. Là, pour le moment, justement, quand on répétait depuis mi-septembre, on a fait énormément, pendant longtemps, un travail vraiment purement de jeu et de mise en scène. On a commencé, puisqu'en fait, il y a une scénographie assez forte sur ce spectacle, puisqu'on joue sur un manège, on joue sur une plateforme tournante qui impose une plateforme tournante de 3 mètres de diamètre. Et donc cette plateforme impose un certain nombre de choses. Donc au tout début du travail, on a d'abord commencé par vérifier cette idée de mise en scène, vérifier si elle pouvait fonctionner. Et lorsque ça s'est confirmé, là on a entamé véritablement le travail de jeu, d'interprétation et de mise en scène dans le sens aussi de direction d'acteur. En parallèle, le metteur en scène qui est également le scénographe a travaillé à la conception puis à la fabrication du manège. En parallèle, le costumier a travaillé sur les costumes. En parallèle, le créateur musical également a composé les musiques du spectacle. Mm-hmm. Voilà. Et là, ça y est, c'est le moment où tout s'assemble.
Pour revenir du coup au décor, est-ce que ça a été compliqué de transposer le décor, de le transporter avec vous d'endroits différents à différents endroits ?
C'est une très bonne question. Oui, effectivement, le transport du décor, c'est une grosse partie de la réflexion quand on en fabrique un. Et donc, David, le metteur en scène, a fait en sorte que ce soit relativement transportable. Donc, c'est une plateforme, en fait. Tu vois, là, tu la vois ouverte, la plateforme, mais elle se referme un peu en sandwich afin de pouvoir être stockée de manière minimaliste dans un théâtre, notamment à Paris, là où on va jouer pendant 3 mois. Il faut qu'on prenne le minimum de place et que tout puisse rentrer, une grosse partie du décor rentre ensuite à l'intérieur du manège quand il est replié. Voilà, puis après ce sont des petits accessoires supplémentaires, mais le gros c'est là-dedans.
Et du coup, alors pour déplacer autre chose que le décor, pour déplacer la compagnie, comment ça se passe ?
Alors donc la compagnie en tant qu'association, en tant que structure est basée dans la Nièvre à Nevers, mais la plupart des gens habitent en réalité à Paris en région parisienne, et donc c'est pour ça qu'on est en résidence, qu'on appelle en résidence, et qu'en fait tout le monde vient passer une semaine ici, etc. Voilà.
Et nous voici de nouveau au théâtre. Et nous sommes vraiment une drôle d'espèce, nous les humains.
Donc toujours avec la compagnie Les Ballons Rouges, je suis avec Émilien Reynaud. Bonjour Émilien.
Bonjour.
Donc on le rappelle, il y a quelque temps, on en parlait avec Camille. Vous jouez avec votre compagnie la pièce Léocadia de Jean Anouilh. Donc avec cette histoire d'un jeune homme qui a perdu la femme qu'il aimait et qui revient en boucle ses journées d'amour avec elle. Vous jouez le rôle du jeune homme, justement, du prince au bois dormant, comme on disait avec Camille.
C'est ça, tout à fait. Ouais. Je joue le rôle de ce prince qui est un peu perdu dans son histoire d'amour qui a duré seulement 3 jours. Et qui essaye de tout faire pour en sortir, et qui malheureusement n'y arrive pas.
Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus ? Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre rôle, de ce qu'il signifie, de ce qu'il implique ?
Écoute, pour parler de mon rôle, c'est un rôle qui a été un peu compliqué à mettre en place, parce que c'est un personnage qui est à la fois, qui peut paraître très détestable au premier abord, et qui du coup, ça a été compliqué d'apporter de l'humanité dedans, et justement de faire en sorte qu'on l'aime quand même, parce qu'il peut être très violent au tout début. Et du coup, ouais, ça a été compliqué de trouver cette part d'humanité, de travailler ses bons points, ses côtés positifs, etc.
Essayer de le rendre touchant, en fait.
Exactement. Ça a été un peu dur.
Et du coup, donc, bon, on va pas trop parler de la fin de l'histoire. Hein. On essaie de pas trop divulguer ce qui va se passer. Mais donc c'est Camille, ta partenaire, qui vient un peu essayer de te libérer de cette emprise.
C'est ça. En fait, ma tante, alors ça ce n'est pas dans la pièce, mais on le comprend au début, ma tante croise cette jeune fille qui est le sosie de la femme que j'ai aimée, et du coup l'embauche pour venir jouer le rôle de la femme que j'ai aimée, pour essayer de me sortir de cette torpeur.
Et justement, en parlant du coup de votre tante, enfin dans la pièce du coup, c'est comme on disait dans le, comment dire, dans la métaphore du conte de fées, c'est un peu la marraine, la bonne fée, comme disait Camille.
Ouais, c'est exactement ça. Ouais, clairement déjà elle a ce côté un petit peu fou, etc. Et oui, tout à fait, c'est elle qui met tout en œuvre pour essayer de sauver son neveu, déjà en reconstruisant tous les endroits où il a connu cette femme dans un premier temps, après en embauchant des gens pour jouer le rôle des personnes que j'ai croisées, etc. Donc oui, clairement c'est marraine, la bonne fée. Ouais.
Vous disiez que du coup, c'est elle qui, comment dire, qui engage tous les gens pour un peu le maintenir dans cet état. Donc au final, est-ce qu'elle essaie vraiment de le sauver en essayant de le maintenir dans son état de cycle ?
C'est une excellente question, parce que c'est vrai qu'en fait, d'un côté, on peut se dire que ça fait que le faire continuer à aller mal. Mais au début, en fait, je pense que tout début, la première fois que tout a été reconstruit, ça l'a vraiment aidé, du moins dans moi, l'histoire que je me suis racontée de cette partie-là. Je pense que ça l'aide au début, mais qu'après, au fur et à mesure, il perd de toute façon la mémoire, il perd ses souvenirs, il perd. C'est normal, au bout de 2 ans, d'oublier toutes ces choses-là. Et il le dit d'ailleurs qu'il y a des moments où il remet plus le regard de cette femme, il se souvient plus de sa voix, etc. Et du coup, je pense qu'au bout d'un moment, ça devient plus une souffrance que quelque chose qui lui fait du bien. Et c'est pour ça, tant mieux que cette jeune fille arrive pour essayer d'amener un peu de peps au truc, quoi, de nouvelles choses.
Vous parliez de cette histoire que vous vous racontiez à vous-même. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre histoire de Léocadia ?
Sur mon histoire de Léocadia, ouais, tout à fait. En fait, c'est un personnage qui est... Là, je vais être un peu dans la confidence, mais qui est assez proche de moi sur certains points. Et du coup, moi, ce que je me suis raconté, il n'y a rien de très compliqué, je me suis juste raconté mon histoire à moi, c'est-à-dire que il avait rencontré cette femme, qui l'a connue malheureusement que 3 jours, et il s'est persuadé d'être tombé amoureux d'elle, parce qu'en fait, il le croit véritablement. Et ce qui devient très douloureux pour lui à la rencontre de cette jeune femme qui vient remplacer l'ancienne jeune femme, c'est de se dire qu'en fait, il se rend compte qu'il l'a pas vraiment aimée et qu'il est resté bloqué pendant 2 ans sur ce souvenir douloureux, et qu'en fait, il s'est menti à lui-même, mais qu'il s'en rend compte que grâce au contraste qu'Amanda, donc cette jeune fille qui arrive, met en place, parce que lui, il ne s'en était pas rendu compte, étant enfermé dans son truc tout seul, etc. Donc il y a beaucoup de choses à raconter.
D'accord, et bien merci beaucoup.
Un peu merci à toi.
Qu'est-ce qui peut bien pousser de grandes personnes telles que vous et moi à venir dans des théâtres pour écouter des histoires ?
À présent, je retrouve du coup Axel Steinkernelevitch. Est-ce que j'ai bien prononcé ?
Très bien.
Du coup, bonjour Axel.
Bonjour.
Du coup, dans cette histoire de Léocadia, quel est votre rôle ?
Alors, je suis Germain, l'acolyte de Madame la Duchesse, qui veille un peu à ce que le château, tout se passe bien au château, et surtout ne reste un peu le secrétaire de la duchesse et s'occupe de beaucoup de choses. Voilà.
Donc l'assistant de la duchesse.
Exactement, assistant, espion, tout pour elle.
Votre personnage, si j'ai bien compris, chante à la fin avec la duchesse.
C'est ça, exactement.
C'est quelque chose qui n'est pas dans la pièce originale, si ?
Non, c'est pas dans la pièce. C'est dans la précédente pièce de la compagnie, Le Barbier de Séville, on avait déjà fait des musiques. Et là, du coup, vu qu'il y a un côté quand même très conte de fées avec ce manège, un côté très onirique, le metteur en scène, David, et puis avec la proposition de Laurent Labruyère, qui a fait la musique déjà, qui nous a aidé à enregistrer la musique sur l'ancienne pièce, en prenant le texte de Léocadia, un passage de... La Duchesse, on a mis ça en musique, voilà.
D'accord, donc un petit côté comédie musicale à la fin.
Exactement, comédie musicale, Disney, Bambi, conte de fées, voilà.
Pour rester dans les contes de fées, oui, c'est ce qu'on disait. Donc, La Duchesse a ce rôle de marraine la bonne fée, on le dit, on le répète. Et donc, si on était dans un conte de fées, votre rôle se rapprocherait plutôt de quel genre de personnage ?
Alors, je sais plus si ça s'appelle comme ça, mais la chandelle dans La Belle et la Bête.
Ah oui, Lumière.
Lumière, c'est ça. C'est à peu près, apparemment, ce à quoi je fais un peu penser là-dedans.
D'accord, c'est un rôle sympathique.
Ouais, non, mais c'est très très plaisant à jouer. C'est agréable, et puis c'est... Le côté onirique et loufoque permet beaucoup de choses, et ça c'est très agréable dans le rôle des personnages à jouer.
Nous sommes la seule espèce sur la Terre à savoir que nous sommes nés et que nous allons mourir. Ces deux savoirs nous donnent l'intuition de ce qu'est une vie entière.
Je suis avec Valérie Français, qui est une des comédiennes. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Donc vous incarnez cette fameuse duchesse dont on n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure, même la dernière fois avec Camille. Vous êtes donc la duchesse de quelle... Comment s'appelle la duchesse?
Dandinet d'Andenne.
Dandinet d'Andenne, voilà. Et donc vous êtes cette fameuse marraine la bonne fée, si on peut dire.
Voilà, c'est ça. Et je suis la tante du prince, le héros... de l'histoire.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus en profondeur de votre personnage du coup?
Ben, mon personnage, on apprend, mais peut-être il ne faut pas qu'il dise tout, mais cela dit, bon. Non, mon personnage, en fait, elle a reporté, elle n'a pas eu d'enfant, elle est veuve, et donc elle a reporté toute son affection sur son neveu, Albert, le prince, dont elle s'occupe et qui l'inquiète beaucoup. Pour tout un tas de raisons dont on vous a peut-être déjà parlé par rapport à cette personne donc, qu'il a connue 3 jours en fait et aimée pendant ces 3 jours et en fait qui est morte au bout de 3 jours. Et du coup, il a construit toute son histoire autour de ça et il revit en permanence. Et elle l'aide à revivre en réinventant toute cette histoire qui n'a duré que 3 jours malgré tout.
On va peut-être plus parler hein, de votre personnage en soi plus précisément. Et donc, vous mettez en place un dispositif pour que votre neveu... Enfin, je dis votre neveu comme si c'était votre vrai neveu, mais je veux dire votre neveu dans
oui,
la
oui,
pièce
bien, hein.
Revive ces 3 jours. Qu'est-ce qui a fait dire à cette duchesse, d'après vous, qu'il fallait faire ça pour que son neveu aille mieux?
Mais parce qu'en fait, c'est ce qu'elle dit dans la pièce, elle avait peur que tout simplement il ne se suicide. Il était dans une telle dépression. Donc il y avait une urgence. Il y avait une urgence à trouver quelque chose pour que... Voilà, donc puisqu'il était de toute façon déjà dans son souvenir, et c'était rendre vivant, mettre en scène son souvenir pour que l'éloigner des pensées sombres et définitives.
Oui, un petit peu, bah, en fait, voilà, simplement pour le préserver.
Bah oui, tout à fait.
Bien sûr. Tout simplement.
Bah ouais.
Donc, on va peut-être partir un peu plus à vous, du coup, Valérie, et un petit peu moins à la duchesse. Donc, vous faites partie de la compagnie des Ballons Rouges.
Oui, enfin, moi, je viens d'arriver, je suis toute nouvelle dans la compagnie.
Vous venez d'arriver?
Oui.
Et donc, en tant que nouveau regard, si je puis dire, vous vous intégrez bien dans cette compagnie?
Ah oui, bien sûr, oui. Ils sont tous très sympathiques, beaux de talent, donc moi, j'adore être avec eux.
Une forme qui se déploie dans le temps avec un début, des péripéties et une fin.
À présent, je suis avec David Legras. Donc, bonjour David.
Bonjour.
Donc, vous êtes le metteur en scène de la pièce Leocadia.
Oui.
Donc, depuis tout à l'heure, on parle justement de ce manège, parce que, comme on le disait, il y a cette histoire de théâtre dans le théâtre, et le manège représente donc ce monde dans l'histoire. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de comment vous est venue l'idée du manège?
Oui, alors je crois me souvenir que... Ça m'est venu parce que je me suis demandé... Donc l'histoire raconte, entre autres choses, une duchesse qui a fait reconstruire des lieux, des décors dans son parc. Une auberge, une boîte de nuit, un taxi, un marchand de glace. Et je me suis dit, comment donner la lecture, l'impression aux gens qui seront dans la salle, aux spectateurs, que tout ça, ce sont des décors reconstruits, sachant que... sur les plateaux de théâtre, il y a toujours des décors reconstruits. J'aurais pu me contenter de ça, mais je voulais souligner que ces décors étaient reconstruits artificiellement dans un parc. Et je me suis dit, quand dans la vie croise-t-on des décors reconstruits? Et j'ai pensé au manège où il y a des petites voitures, où il y a des petits vélos, où il y a des petits salons, où il y a... voilà. Et donc... Et donc j'ai eu l'idée de faire ce manège, d'autant plus que l'histoire d'Anouilh raconte un jeune garçon, un prince qui sait, et j'axe ce projet de mise en scène sur cet angle-là, d'un prince qui sait raconter une histoire. Il s'est raconté l'histoire d'un amour qu'il a fantasmé, idéalisé, qui est complètement factice. Ce n'est que dans sa tête. Ce qui pose quelques problèmes que la pièce va résoudre. Et sur les manèges, les enfants, on se raconte, pas uniquement, ça peut être dans un grenier, dans notre chambre, n'importe où, mais entre autres choses, très facilement sur un manège. Quand un enfant monte sur un manège, il se raconte une histoire, il croit qu'il est chauffeur de taxi, il croit qu'il est, etc. Il fait déjà du théâtre. Voilà, donc l'idée du manège est venue comme ça.
Et c'est aussi pour ça, du coup, si on peut dire, car là, du coup, je vois les décors un petit peu. Il y a beaucoup de petits décors, c'est-à-dire c'est des petites chaises, c'est des petites voitures. C'est donc ça parle de ça aussi un petit peu pour la reconstruction.
Bah, oui, alors forcément, ça m'était imposé parce qu'on n'a pas un manège de 10 mètres de diamètre. Donc je pouvais. Ben voilà, puis ça m'intéressait aussi, ça m'amusait de faire des choses miniatures.
C'est une sorte de contrainte un petit peu.
Oui, et puis j'aime bien l'illusion. Étrangement, ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est assez marrant quand on est dans la salle, je crois. Très rapidement, on oublie que ces décors sont petits, que les comédiens sont grandeur nature, mais que les chaises sur lesquelles il s'assoit, c'est des chaises pour enfants, mais que le taxi, c'est une petite voiture à pédales. On oublie très très vite. L'imagination du spectateur se met en branle et on ne réalise plus très vite, je crois, je l'espère, me semble-t-il, que tout ça est miniature et ça m'amuse beaucoup. Voilà.
Oui, on accepte ça plus facilement de fait qu'on soit au théâtre, par exemple.
Ben oui, c'est la magie du théâtre, c'est un lieu comme dans la lecture qui n'existe beaucoup plus difficilement au cinéma, je crois, je ne suis pas spécialiste de la chose, mais au cinéma il faut que les choses soient réellement réelles pour que le public l'accepte. Au théâtre, la vertu du théâtre, c'est que les gens acceptent très vite une illusion et la transforment dans leur esprit en réalité. Et je suis très heureux de cette possibilité, avec cette mise en scène, de créer cette illusion.
Tout à l'heure, justement, vous me disiez que la mise en scène venait aussi du fait qu'on vient au théâtre pour se raconter des histoires, pour se laisser raconter des histoires comme à des enfants.
Oui, je suis. Voilà, une des choses qu'on oublie rapidement, nous, enfin, écoutez, je ne parle que pour moi, mais ça me semble, ça continue après 30, 35 ans de métier. Je reste fasciné par le voir des grandes personnes venir dans des lieux qui s'appellent des théâtres. Pourquoi ? Pour qu'on leur raconte des histoires, tout autant que les enfants qui ont besoin qu'on leur raconte des histoires. Voilà, c'est étrange, c'est quelque chose de complètement enfantin, même des... à tout âge, apparemment, les humains ont besoin qu'on leur raconte encore des histoires.
Besoin de s'émerveiller quelque part.
Oui, bien sûr, voilà.
Du coup, peut-être revenir sur deux personnages un petit peu intéressants, donc notamment le personnage du narrateur que vous avez instauré. Du coup, vous me disiez tout à l'heure que ce personnage n'existait pas dans la pièce originale et que vous l'avez créé pour l'occasion.
Oui. Pour deux raisons. Une des raisons, c'est qu'il se trouve qu'il y a un personnage dans la pièce d'Anouilh, qui est une duchesse, qui a donc fait reconstruire les décors dans son parc. Parle à plusieurs reprises dans la pièce à son mari décédé. Après la mort de son mari, elle a continué à lui parler. Elle a des petits dialogues avec lui. Et je me suis servi de cette idée-là en faisant un personnage qui est le narrateur qui, au-delà de la mort, raconte comme un fantôme, raconte une histoire comme... Mais c'est parce que je suis très influencé par des films que j'adore, où il y a des personnages comme ça. Il y a Les Aventures de Madame Muir, qui est un film de Max Ophuls, où il y a un personnage qui est mort, qui est très présent. Voilà, par exemple. Et donc, j'ai créé ce personnage du narrateur qui n'est jamais sur le manège, mais qui raconte au public dans la salle, aux spectateurs, une histoire en faisant tourner le manège comme quelqu'un qui ouvrirait un livre et qui tournerait les pages pour raconter une histoire à des enfants.
Très bien. Et du coup, un deuxième personnage qui serait intéressant d'aborder avec vous, donc c'est le personnage de Monsieur Souvenir, si j'ai bien compris. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce Monsieur Souvenir ? Qui est-il ?
Oui, alors Monsieur Souvenir, c'est le... Dans la pièce d'Anouilh, il y a plusieurs personnages que j'ai réunis en un seul, que j'ai appelé Monsieur Souvenir. Dans la pièce d'Anouilh, ce sont... Ce sont les employés des lieux que la duchesse a fait reconstruire dans son parc, c'est-à-dire donc une boîte de nuit, une auberge, un taxi, un marchand de glace. Et j'en ai fait un seul personnage qui va de décor reconstruit en décor reconstruit. Il a une journée, il a des journées un peu de 24 heures parce qu'il bosse la nuit dans cette boîte de nuit. Le matin, il est dans son auberge et puis en journée, il est au taxi, il est au marchand de glace.
Est-ce qu'en tant que metteur en scène, il y a un dernier, peut-être un dernier détail que, sur lequel vous voudriez attirer l'attention des gens qui m'auraient échappé sur la mise en scène ?
Il y a une chose qui m'amuse que je n'ai jamais fait moi en tant que metteur en scène, qui est un peu risqué, et que, enfin risqué pour moi parce que je ne l'ai jamais fait, qu'il y a un moment donné dans la pièce d'Anouilh où j'ai eu envie, sur un monologue de la duchesse, de faire une toute petite comédie musicale. J'ai demandé à un musicien de à partir du texte d'Anouilh de faire une chanson. Je lui ai dit, il s'en est débrouillé très bien je crois, une chanson à la Jacques Demy. Donc il y a un petit moment chanté, voilà.
Très bien, merci beaucoup David.
Je vous en prie. Ça.
Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur la mise en scène.
Un récit. C'est ainsi que nous, humains, nous voyons le monde. En l'interprétant, c'est-à-dire en l'inventant, en donnant au réel un sens qu'il n'a pas.
Bon, à présent, nous retrouvons donc Driss Pantier. Bonjour Driss.
Bonjour, bonjour Marie.
Donc alors toi, tu fais partie de la compagnie Les Ballons Rouges, tu fais partie des membres fondateurs, c'est ça ?
Exactement, et on a fondé la compagnie en 2020, voilà, tous les six.
Et donc dans la pièce Léocadia, tu joues le rôle de Monsieur Souvenir, qu'on parlait justement avec David il y a quelques minutes.
Ouais, exactement, je prends le rôle de Monsieur Souvenir, qui est à la base plusieurs personnages qu'on a réunis en un seul, et c'est un peu le liant de l'histoire. Et il va arriver, enfin, c'est quelqu'un qui est un peu plus, qui est un peu simple. J'ai envie de dire que c'est quelqu'un d'un peu simple dans la vie de tous les jours et qui s'amuse maintenant, je crois, à jouer des rôles différents tous les jours. C'est un travail qui est bien payé, il le dit dans la pièce. Et je crois que c'est quelqu'un qui s'ennuie profondément maintenant d'avoir pris ce travail. Il s'amusait au début et maintenant il s'ennuie un peu. Et voilà, il vit de ça.
Regarde juste un tout petit détail, après on revient sur le personnage. Alors c'est pas un personnage muet.
Ah non, 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 pas du tout. C'est bien un personnage qui parle.
Vous disiez au début que ça l'amusait, un peu moins maintenant. Et au final, quand ça l'amusait, bon, on est sur un manège, on a des accessoires miniatures. Est-ce qu'au final, il s'amusait un peu comme un enfant, on peut dire ou...
Pas vraiment comme un enfant. Je crois que ça lui permet d'avoir. C'est un peu la même chose qu'être un comédien. On aime bien vivre plusieurs vies. Et donc du coup le fait d'avoir plusieurs jobs différents, d'être plusieurs personnes, ça lui permet de vivre plusieurs vies. Donc je crois que c'est ce qui l'amuse le plus. Le manège, lui, Monsieur Souvenir, il le voit pas. Le manège, c'est le public qui le voit, c'est le comédien qui le voit, mais pas le personnage. Le personnage, il le voit pas, le manège.
C'est extra-diégétique.
Ouais, exactement. Exactement. Il est un peu perdu à l'arrivée de cette jeune femme. Ça va le perdre lui aussi. Et casser sa routine, ses habitudes.
Peut-être un petit détail sur Monsieur Souvenir. Alors, vous allez me dire si c'est vrai, enfin, si je me trompe ou pas. C'est un peu le seul personnage entre guillemets qui a pleinement conscience de la situation, puisque le prince subit un peu plus parce qu'il est dans son cycle de pensée, et la duchesse, c'est elle qui a créé ce contexte. Donc lui, il est un peu plus entre les deux au final, puisqu'il est dedans, mais il ne le subit pas comme le prince.
Ah non, il le subit pas du tout. Il est complètement rationnel en fait. Et il sait exactement ce qui se passe. C'est l'un des rares personnages qui n'est pas reconnu par tout le monde finalement, alors que c'est toujours le même. Non, non, il est complètement rationnel et conscient de ce qui est en train de se passer. Pour lui, c'est juste un travail. Il ne le vit pas comme un rêve. Il ne le vit pas comme une remémoration. Pour lui, c'est juste son taf, c'est son boulot. Ça revient au même. Je pense que c'est de la, pour lui, c'est de la reconstitution. Et on apprendra plus tard que c'est de la reconstitution. Il s'en amuse un peu quand même de cette reconstitution.
Donc, alors, ce qu'on disait aussi tout à l'heure avec David, c'est à la base... donc plusieurs personnages réunis en un seul, du coup. Qu'est-ce que ça change, du coup, que ce soit à la base plusieurs personnages en un ?
Ben, Jean Anouilh a écrit ça pour plusieurs personnages, donc avec des caractères différents. Et donc, du coup, il a fallu faire un travail de texte pour retrouver la même essence sur chacun des personnages. C'est d'abord un travail de texte qui est important, et surtout de lui trouver un... Ils sont écrits avec des caractères différents, ces personnages, donc... pour le réunir en un seul, il a fallu sélectionner les caractères les plus prépondérants chez chacun, pardon, et en faire qu'un seul personnage au fur et à mesure. Mais c'est d'abord un travail de texte, principalement, je crois.
Donc au final, un personnage qui peut paraître peu important, mais qui au final fait un peu toute l'histoire que se raconte le prince.
Bah, c'est exactement ça, en fait. C'est le même principe qu'une reconstitution. Quand on fait une reconstitution, il faut des comédiens. Il ne faut pas seulement croire en l'histoire, il ne faut pas seulement avoir envie et aimer ça. Il faut aussi des comédiens. Et ben voilà, il sert à ça, il sert à donner vie à la reconstitution. Sinon, ce ne serait que des lieux, des objets. Et comme ils ne bougent pas, ben, voilà, pas de vie.
D'accord, bah écoutez, merci beaucoup, Driss.
Et ben merci, Marie.
Nous fabulons. Nous créons la fiction de notre vie. C'est ce que nous faisons tous, tout le temps, sans le savoir, sans le vouloir. Sans pouvoir nous arrêter.
À présent, du coup, on se retrouve avec Jérôme Ragon. Donc, bonjour Jérôme.
Bonjour.
Vous êtes le costumier sur le projet Léocadia, c'est bien ça ?
Oui, je suis costumier, effectivement.
Donc alors, j'aimerais donc vous poser quelques questions d'abord sur le fait de faire des costumes pour le théâtre. Donc vous me disiez que ce n'est pas votre métier à la base.
Non, je suis comédien et je fais ce métier-là, je suis comédien depuis plus de 25 ans maintenant. Et dans le cours de mon parcours, justement, j'ai été amené à bricoler des costumes. Et comme j'ai toujours aimé la couture et que je me suis toujours intéressé à ça, j'ai commencé à me fabriquer mes propres costumes. Et ensuite, de fil en aiguille, pour filer la métaphore, on m'a proposé de faire un spectacle jeune public, de concevoir les costumes et de les fabriquer. Et depuis maintenant 15-17 ans, j'en fais de plus en plus. Et j'y prends beaucoup, beaucoup de plaisir parce que c'est à la fois imaginer, mais c'est aussi fabriquer qui m'intéresse.
Et donc, vous avez été costumier, du coup, si je puis dire, sur combien de projets ? À peu près.
Je pense que maintenant, je dois être entre 10 et 15. Et oui, j'en ai... suivant les années, j'en ai plus ou moins. Cette année, j'en ai au moins deux. Peut-être un troisième à la fin de la saison. Mais oui, c'est entre deux et trois. Mais ça dépend. Des fois, c'est de simples visites théâtralisées. D'autres fois, c'est des projets plus conséquents avec beaucoup plus de comédiens. Et ce qui m'a permis l'an dernier pour Avignon de préparer une version des Trois Mousquetaires où il y avait 9 comédiens sur scène et on a fabriqué à deux une cinquantaine d'éléments de costumes en 3 mois.
Ah oui, c'est quand même assez impressionnant.
Oui.
Mais du coup, ça nous permet d'embrayer sur la question qui est comment est-ce que on conceptualise et on crée des costumes pour le théâtre.
Ah bah déjà on lit la pièce et puis on discute beaucoup avec le metteur en scène pour savoir où lui veut emmener quelle est sa vision, dans quelle époque, avec quel style de jeu. Moi, je rencontre les comédiens, je me fais mon propre imaginaire sur la pièce, je fais beaucoup de recherches iconographiques sur l'époque choisie ou les ambiances choisies et en fonction, je fais des propositions au metteur en scène et en fonction des comédiens, je discute aussi beaucoup avec les comédiens et ensuite, quand la mise en scène se fait, là, j'adapte ce que j'ai prévu. S'il y a ce qu'on appelle des changements rapides, certains costumes qui étaient entiers deviennent que des éléments avec des scratchs, des pressions pour permettre des changements très, 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 très rapides. Et voilà. Et puis, évidemment, il y a eu une recherche de palette de couleurs aussi en fonction du décor pour que les costumes et les personnages ressortent, mais aussi qu'ils ne soient pas complètement, suivant l'ambiance, complètement... Enfin, que ça soit quelque chose qui soit dans le même univers, dans le même ton, dans le même... Voilà.
Oui, donc ça, c'est une cohérence.
Voilà, exactement.
Et du coup, alors, parce que vous disiez que vous aimiez la création, alors c'est une question qui me semble intéressante. Les costumes que vous créez, vous les créez à 100% ou il y a un peu de récup ou c'est que de la couture ?
Tout. Suivant les projets, je peux tout faire. Dans celui-là, il y a de la récupération de costumes dits d'époque, de l'achat de fripes et modification de fripes, et puis certains costumes ont été faits de bout en bout.
Bah, du coup, justement, pour revenir sur le projet du coup Léocadia, comment s'est déroulée plus précisément la création des costumes ?
Eh bien, comme je vous l'ai expliqué, on s'est vu très en amont cet été avec David, qui m'a expliqué le projet, qui m'a demandé si ça m'intéressait. D'abord, j'ai lu la pièce et je lui ai dit que oui, ça m'était déjà arrivé de travailler sur les années 30.
C'est l'époque dans laquelle se déroule la pièce.
Et puis on s'est mis à réfléchir et à rêver tous les deux. Moi, j'ai cherché beaucoup de documentation et de patrons aussi d'époque. Et je lui ai fait plein de propositions et on a eu plus de mal sur la dernière tenue de Léocadia à trouver quelque chose qui raconte à la fois l'époque des années, fin des années 20 et début des années 30, mais aussi qui apporte une image un peu plus moderne à l'iconographie et à la silhouette de ce personnage-là. Et puis finalement, j'ai trouvé un patron de robe de mariée contemporaine que j'ai adapté et on l'a fait dans une autre couleur et je m'arrache les cheveux pour faire l'ourlet. Voilà.
D'accord, pas de souci. Mais du coup, alors, vous parliez de Léocadia, justement, de la figure de Léocadia. Alors, la dernière fois, avec Camille, on parlait justement de l'inspiration un peu de Isadora Duncan, du personnage. Est-ce que ça se retranscrit dans ses costumes ?
C'est de manière très discrète. En fait, quand j'ai regardé les vidéos et les photos d'elle, je me suis surtout inspiré des tenues qu'elle portait quand elle dansait, qui étaient des toges à la grecque, puisqu'il y avait un renouveau de la Grèce antique pendant les années 20. Et c'est des petits clins d'œil sur sa silhouette. Et puis, la fameuse écharpe qu'elle porte sur sa première tenue de Léocadia, puisqu'elle en a deux, qui est le clin d'œil d'Anouilh à ce personnage-là, parce qu'elle est très éloignée au final de...
Oui, c'est juste un peu l'esthétique, oui, si je puis dire.
C'est la référence. C'est la référence visuelle et historique, mais Amanda, qui devient Léocadia, finalement, n'est pas du tout danseuse, n'est pas... c'est comme un fantôme, c'est comme une grande icône.
C'est aussi une question du coup intéressante, ça, parce que du coup, Amanda joue le rôle dans la pièce de Léocadia. Comment est-il possible de vraiment le différencier ? Donc, il y a les costumes, c'est une explication. Et comment, dans les costumes, se différencie-t-elle ?
Bien, quand elle arrive, quand elle débarque chez la Duchesse, c'est une petite modiste, très simple. Donc, on a travaillé sur des couleurs basiques, grises. C'est une petite ouvrière qui a une origine très modeste et plus on va lui proposer le personnage de Léocadia, elle va mettre une robe perlée blanche et puis quand elle va sortir au cabaret, elle va avoir une espèce de robe sirène fourreau, un peu à l'image aussi des grandes stars des années 20. Ça, j'avais ça aussi en tête. Des stars de cinéma. J'avais aussi un peu en tête My Fair Lady, quelque part. Et voilà, et je voulais que, aussi, par rapport à la silhouette que je propose du prince, il y ait quelque chose qui se réponde. Tous les deux portent, lui porte un canotier, très à la mode à l'époque. Elle porte un chapeau de paille très plat. Et quelque chose, malgré leurs origines, qui nous raconte physiquement que comme un jeu de miroir. Et on retrouve des matières d'un personnage à l'autre et des couleurs d'un personnage à l'autre aussi, puisqu'ils sont au moins 5 comédiens. Je me suis servi de choses qui se répondent.
C'est aussi important du coup de parler des milieux dans lesquels évolue le personnage, parce que c'est quand même un milieu assez... Je ne sais pas si le terme bourgeois serait le bon terme, c'est plus aristocratique, même puisque c'est une duchesse, donc dans un milieu assez aristocratique, qui permet des costumes un peu plus fastueux, si je puis dire.
Oui, mais en même temps, le faste se note de manière assez discrète chez la duchesse, par exemple. Elle est assez excentrique et on l'a voulu un petit peu rangée, la première image, elle est un peu sévère et c'est par des lorgnons face à main ou par un collier de perles qu'on voit, et puis la manière de se coiffer aussi. On avance, elle a une deuxième tenue d'intérieur qui est plus fluide, là où on sent qu'elle est vraiment chez elle. Et ensuite, il y a une scène de chasse à la fin, où là, elle est en pantalon de cheval, elle a des bottes, et on se dit que, voilà, c'est aussi une femme d'action.
Très bien, du coup, pour juste un petit peu finir, une question toute bête, quel est votre costume préféré dans la pièce ?
Moi, j'aime beaucoup le costume blanc du prince que j'ai fait intégralement, à la main et à la machine, mais beaucoup, beaucoup à la main pour arriver à faire une veste comme il porte.
D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et aussi sûrement que nous avons besoin d'air pour respirer, nous avons besoin de nous raconter.